Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute.
Ici Lionel Levac. La tradition est maintenant bien installée. Les parlementaires québécois reçoivent à l'Assemblée nationale les membres du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC, lors d'une soirée réseautage. Cette année, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a profité de l'événement pour confirmer un soutien financier renouvelé pour Amélioration alimentaire Québec sous mandat avec le CETAC. J'étais de cette rencontre à l'Assemblée nationale. Voici mon reportage. Une rencontre devenue annuelle entre les parlementaires québécois et les transformateurs alimentaires.
Élisabeth Bélanger, présidente du conseil d'administration du CETAC et aussi présidente directrice générale de la maison Orphée.
Orphée, les huiles tout particulièrement.
Les huiles, vinaigre, moutarde, vinaigrette, sauce, toutes sortes de condiments, oui.
Ce soir, un événement réseautage à l'Assemblée nationale, l'occasion pour des gens du secteur de la transformation de rencontrer des parlementaires.
Oui, c'est une occasion en or pour nous. C'est la 6e édition du cocktail de l'Assemblée nationale du CETAC. Très important parce que le ministre Lamontagne est là, c'est notre président d'honneur. Et aussi, on a beaucoup d'élus qui sont là et de transformateurs du secteur. C'est une soirée très animée. J'ai l'impression que c'est la plus grosse soirée qu'on a eue du genre jusqu'à maintenant. Et puis, bien, on a beaucoup d'enjeux quand même dans le secteur. C'est important, le secteur de la transformation alimentaire. C'est un secteur manufacturier important au Québec, 40 milliards de livraisons par année. Mais il reste qu'on a des enjeux de main-d'œuvre, des enjeux aussi avec les coûts des matières premières. Donc, c'est important de faire connaître ces enjeux-là à nos élus. C'est important d'échanger avec eux aussi, de voir qu'est-ce qu'ils en pensent, puis de leur faire comprendre qu'un peu partout sur le terrain, on est là, on occupe le territoire, on a des petites, des plus grandes entreprises, on est des moteurs dans nos régions. Et puis, ben, il ne faut pas oublier justement les gens de la transformation alimentaire qui nourrissent le Québec finalement.
Le contexte actuel est assez préoccupant, mais le secteur de la transformation alimentaire, le secteur de l'alimentation de façon générale, se tire quand même assez bien d'affaires.
Le secteur rebondit toujours. Hein? Les gens mangent encore 3 fois par jour en général. Donc oui, le secteur est résilient, mais c'est une année, moi ce que j'entends, où il y a des gens qui ont fait des investissements, donc les taux d'intérêt s'attirent un peu partout. Payer plus d'intérêt, bien, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour aller chercher des ressources pour faire du développement d'affaires, faire de l'innovation, faire de l'automatisation. Donc, je pense que ça ralentit un petit peu les ardeurs de certains. Donc, tout le monde a des plans, a des bons plans, mais je pense que c'est la capacité, la vitesse à déployer ces plans-là en ce moment qui est au ralenti.
Il faut rester vigilant, là.
Je pense qu'il faut rester vigilant, il faut être optimiste. Je sens qu'il y a quand même un optimisme qui est là, parce que c'est un secteur qui en a vu d'autres aussi. Hein. Mais je pense que les gens ont une certaine prudence en ce moment, qui est bonne, qui est saine. Mais en même temps, c'est le moment de saisir certaines occasions, certaines opportunités dans le marché, et puis d'assurer d'être bien en place pour continuer, en fin de compte, de développer notre autonomie alimentaire au Québec.
Madame Bélanger, merci beaucoup.
Merci, Lionel.
Parmi les parlementaires, celui qui a parrainé la loi instituant la Journée nationale de l'érable.
Samuel Poulain, député de Beauce-Sud et auteur du projet de loi qui est devenu une loi qui consacre la Journée nationale de l'érable, qui passe à la fois du patrimoine culturel, du patrimoine économique, des enjeux touristiques. Et bien, ça va nous permettre, en octobre prochain, d'avoir, pour la première fois de son histoire, la Journée nationale de l'érable. Et déjà, avec le Conseil de la transformation alimentaire, bien, on est au travail pour faire de cette journée-là un succès.
Et aujourd'hui, bien, c'est une rencontre. On peut parler de réseautage.
Oui.
Les gens de l'industrie de la transformation sont ici avec des parlementaires comme vous.
Samuel.
C'est ta fête en fin de semaine.
Ben oui.
Mais tu m'as écrit samedi matin très, très tôt.
Ben oui, ben je suis tôt le matin. Mais même j'ai attendu là, pour t'écrire. J'ai dit, écoute, d'un coup que sa sonnette sonne, je ne veux pas le réveiller à 5h15.
Merci, merci.
Vous saviez ça que c'était son anniversaire?
Bien sûr qu'on sait ça. Qui ne sait pas quand c'est l'anniversaire de Samuel Poulain?
Le ministre prend soin de son réseau.
C'est ça.
C'est important, comme il l'a fait aujourd'hui.
C'est en plein ça.
Bon anniversaire donc, M. Poulain. Et puisque le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, était tout proche, je lui ai posé quelques questions.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, Lionel.
Événement réseautage, pourrait-on dire, avec les gens de la transformation alimentaire?
Oui, tout à fait. Puis on sait à quel point la transformation alimentaire occupe dans tout l'écosystème de la production, puis de notre grand écosystème bioalimentaire occupe une place importante. Alors ce soir, d'être avec eux, puis un peu cet événement-là de réseautage, là, pour un, c'est très heureux de les accueillir à l'Assemblée nationale, mais après ça, qu'ils puissent parler de ce qu'ils font là, au plus grand nombre de gens possible, c'est une bonne nouvelle. Là.
Vous en avez profité pour parler d'Amélioration alimentaire Québec, un nouveau budget, un nouveau soutien financier.
Oui, bien, on le sait, le défi que la transformation alimentaire, c'est de toujours améliorer la qualité nutritive. Pour vraiment que ce soit de la saine alimentation. On a un programme au ministère qui s'appelle l'Alimentation Santé. Et puis, le CETAC a développé une approche, une initiative qui s'appelle l'Amélioration Alimentation Québec, qu'on a soutenue. Puis ce soir, j'ai annoncé un soutien additionnel de 750 000 $ pour les trois prochaines années dans le cadre d'un projet plus large d'un 1 100 000 $ du CETAC là, pour accompagner les entreprises, pour améliorer les qualités nutritives des aliments transformés au Québec. Là.
Merci, M. le ministre.
Merci, ça fait plaisir.
Revenons à l'érable, dont nous parlions il y a quelques instants.
Jean-Marc Lavoie du Conseil de l'industrie de l'érable. Très important d'échanger, de les rencontrer et de se permettre de les tenir au courant de nos défis et challenges dans l'industrie. Alors, des soirées comme ce soir, c'est très important.
La saison de l'érable est bonne cette année.
C'est une très bonne saison, je vous le confirme. La qualité est au rendez-vous. La quantité est au rendez-vous. Alors, tout le monde semble bien heureux de la situation.
On manquera pas de sirop.
On manquera pas de sirop.
Les entreprises de transformation, de préparation du sirop, de distribution du sirop vont pouvoir opérer sans aucune contrainte. Là.
Sans problème. Cette année, je vous confirme que la récolte est suffisante pour remplir les besoins des transformateurs. Évidemment, s'il y avait eu une petite récolte, ça aurait pu être un défi, un challenge. On le savait déjà. Maintenant, on est sûr qu'il y a eu une bonne récolte. Alors, nos besoins sont couverts et on semble même être capable de mettre de l'inventaire dans la réserve stratégique.
Tout baigne dans le sirop.
C'est sucré à souhait.
Et de l'érable à la mayonnaise.
Hugo Magnan de Groupe Mag. Groupe Mag, on est spécialisé dans les mousses de fruits de mer au départ. Maintenant, on fait des mayonnaises, des vinaigrettes, des trempettes. On est situé à Saint-Augustin-de-Desmaures et à Lévis. On a deux usines. C'est une entreprise familiale.
Des produits qui sont dans la grande distribution qu'on retrouve en épicerie un peu partout?
Oui, distribués dans les chaînes d'alimentation au Québec partout. IGA, Metro, Maxi, dans toutes les grandes chaînes. On est vraiment situé sur la tablette, à l'épicerie, à un prix compétitif, avec une liste d'ingrédients comparative avec les grandes marques. Vraiment, là, notre produit, c'est un produit qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde.
Et surtout à l'approche de l'été, les salades, les burgers et tout ça, là, vous avez une gamme là, qui peut être à la satisfaction de bien des gens. Là.
Tout à fait. On a des mayonnaises assaisonnées. On a des saveurs comme burger, ranch épicé, Tex-Mex, mayonnaise à la truffe. On est finaliste là, au Grand Prix canadien des nouveaux produits avec cette mayo-là. On a la mayonnaise ail noir aussi. Puis là, on vient de lancer une toute nouvelle gamme de vinaigrettes qui vont compétitionner les grandes marques, donc une César, Ranch, une Grec, fines herbes, vinaigre balsamique blanc. Donc, c'est vraiment des vinaigrettes pour l'été.
Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vos produits sont à prix compétitif. C'est un milieu pas facile, ça, parce qu'il y a de grandes multinationales dans ces créneaux-là. Là.
Tout à fait. Sans les nommer, là, on a des compétiteurs internationaux. Notre place sur le marché, c'est très difficile. Les gens, quand ils nous encouragent, c'est très important. Ça fait la différence pour notre entreprise. Nous autres, on est une entreprise d'environ une soixantaine d'employés. C'est toutes des familles qui vivent. Puis à chaque fois que les gens nous encouragent, ça fait toute une différence. Fait que c'est sûr que nous, nos produits s'adressent à un prix comparatif. On est souvent le même prix, des fois moins cher, ça dépend des chaînes. Puis c'est ça qui nous démarque là, de notre produit.
Des gens de l'économie circulaire et de l'anti-gaspillage alimentaire étaient là également.
Patrick Larousse, cofondateur de Régale-toi. Régale-toi est une gamme alimentaire vraiment faite pour nourrir les CPE, donc les centres de petite enfance, aussi tout un marché HRI. Donc, on développe vraiment une gamme alimentaire, donc vraiment des menus pré-manger, mais on a aussi les sauces pour les pré-manger. Là.
À partir de matières brutes québécoises?
100% de tout ce qui est dans la gamme Régale-toi est fabriqué dans notre usine à nous-mêmes, qui s'appelle l'usine Ultra. On fabrique nous-mêmes toutes les matières qui sont ça. Puis on a développé des partenariats avec des maraîchers locaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi en dehors de la région, pour revaloriser les légumes puis les fruits base pour tous nos menus. Donc, on se sert beaucoup de choux-fleurs, betteraves, on se sert de brocolis, carottes, fraises, bleuets, framboises.
Souvent des fruits et légumes qui sont déclassés, comme on dit?
Absolument. On essaie de prendre le plus qu'on peut de fruits et légumes déclassés pour les revaloriser.
Patrick Mougin, je suis à l'initiative du craquelin Rebond. Moi, je revalorise les drèches de brasserie, des brasseries autour de Joliette, Malmström, l'Albion, l'Apothicaire à Saint-Jacques. Je collecte la drèche, elle est encore chaude et fumante. Je l'emmène à mon atelier et j'en fabrique le craquelin le lendemain. Zéro déchet au niveau de la brasserie.
Des craquelins essentiellement faits à partir de produits qui normalement seraient allés soit aux déchets ou soit à l'alimentation animale.
Exactement. On a de la chance d'être en campagne, donc on va plus vers l'alimentation animale. Mais 35 à 45% de la matière première qui rentre dans la composition est de la drèche qui se répartit en déchets. La marque, c'est Rebond. Le nom de la compagnie, c'est Alice et Ambre. Donc nous, on prend la drèche et on en fait un craquelin. Mais on vient de tester la drèche de distillerie, cette fois, 100% maïs. Donc le craquelin avec la drèche de brasserie, la croustille avec la drèche de distillerie.
Alexandre Trusevich, avec Still Good Food. Still Good Food, toujours bon en français.
Oui.
On revalorise tous les résidus alimentaires au niveau industriel. Tout ce qui est retaille, surplus d'inventaire, produits hors spec, ça va être nos bases d'intrants pour fabriquer des produits. Ça peut être du fromage, des pulpes, des fruits, des légumes. Ça peut être du chocolat, ça peut être des grains, des microbrasseries.
Et ça vous permet de produire quand même une certaine gamme de produits, là?
Oui, en fait, toute une gamme d'ingrédients. Également, toute une gamme de mélanges. Donc, on a pris ces ingrédients qu'on a ajoutés à des produits réguliers, faire des gaufres, des crêpes, faire des scones. Et on a aussi fait des produits finis pour tout ce qui est le secteur du service alimentaire, notamment des pains burgers, des biscuits, des craquelins, des granolas, qui vont tous incorporer ces matières revalorisées.
Vos produits, on les trouve où?
On n'est aucunement dans le détail. Donc, on est 100% en B2B. À 50%, on va être avec le secteur manufacturier à fournir du nouvel ingrédient. L'autre 50% va être avec tout ce qui est le secteur service alimentaire, donc les hôpitaux, les écoles, les restaurants, les hôtels à travers le Canada.
Un autre député avec qui j'ai discuté, aquaculture de saumon.
André Fortin, je suis porte-parole en matière d'agriculture pour le Parti libéral du Québec, député de Pontiac.
J'ai envie de faire une petite blague en commençant. Vous n'êtes pas tenté par la chefferie du parti?
Non, pas encore, non.
Bon, ce soir, une soirée réseautage. Justement, avec des parlementaires comme vous. C'est important pour vous, là, ce contact-là avec les gens de la transformation alimentaire?
Bien, c'est important de comprendre leur réalité. On parle beaucoup du monde agricole au Québec, mais souvent, le monde agricole a besoin de la transformation alimentaire avant que ça se rentre dans nos assiettes ou dans nos épiceries. Alors, c'est important pour nous de comprendre leurs préoccupations, comprendre leurs enjeux. Mais j'étais aussi content de voir qu'il y a des beaux, nouveaux projets, des gens qui sont en développement de projets qui sont venus ce soir mettre sur la table leurs idées puis ce qu'ils veulent pour le Québec. Alors oui, c'est important d'être là, puis je pense que c'est important d'entendre ce qu'ils vont dire.
Récemment, il y a eu l'étude des crédits à l'Assemblée nationale. Oui. Il y a été question de blocs d'énergie qui pourraient être alloués, par exemple, à l'aquaculture. Il y a des projets dans l'air, là.
Il y a deux grands projets au Québec. Il y en a un sur la Côte-Nord, puis il y en a un dans ma région, en Outaouais, dans l'ouest du Québec. Et c'est des projets qui pourraient nous aider à l'autonomie alimentaire en matière d'aquaculture. On n'en fait pas de saumon au Québec, alors c'est une filière de plus qu'on est capable de développer pour nourrir nos gens ici. Puis effectivement, ça demande des blocs d'énergie. Mais dans tous les projets que le ministre de l'Économie doit regarder, il me semble que les projets de transformation alimentaire, si on valorise l'agriculture tant que ça, si on valorise la transformation alimentaire, si on veut être capable d'être autosuffisant un jour en alimentation, bien, on n'a pas le choix que d'aider des projets comme ceux-là.
Vous le disiez, pour ce qui est des poissons d'élevage, le saumon en particulier, on est à peu près absent là-dedans. Là.
Bien, nous, on est absent, mais l'Ontario aussi est absent, le Manitoba est absent, la Saskatchewan est absente, donc il y a un marché. Donc même si nous, on le développe et on en fait assez pour notre autosuffisance alimentaire, bien, il y a un potentiel économique de le vendre à l'extérieur parce que le saumon qu'on importe en ce moment, bien, il vient de la côte ouest, mais des fois, il vient de l'Amérique du Sud, des fois, il vient d'ailleurs. Alors, il y a un énorme marché économique. Si on est capable d'aller se servir là-dedans, tant mieux pour nous.
Dans des conditions environnementales excellentes.
Les règles du ministère de l'Environnement sont parmi les plus strictes, les plus sévères. Moi, j'ai confiance qu'on est capable de développer une industrie comme celle-là avec les meilleures pratiques environnementales, juste dans la distance envers les marchés. il y a un marché énorme qui est à nos portes. Alors oui, j'ai confiance qu'on a des règles pour le faire de la meilleure façon possible, mais aussi qu'on peut diminuer les émissions de CO2 par le transport.
Déjà le dessert, avec des bouchers et pâtisseries particulières et de haut niveau.
Tao Nguyen, je suis la fondatrice de Bonbon Collection. Donc, on va des petits gâteaux individuels, les biscuits, jusqu'aux gros gâteaux de célébration, de mariage, mais également les petites collations qu'on peut prendre dans une cafétéria, à l'école, dans un hôpital, sur le chemin.
Et toujours, ce sont des pâtisseries, des gâteaux, etc., qui sont sans allergènes.
Oui, en fait, ils ne sont pas juste que sans allergènes, ils sont inclusifs. Donc, ils sont végétaliens, certifiés sans gluten, sans les 10 allergènes prioritaires, mais également, ils sont respectueux des régimes halal et kosher. Donc, avec un produit qui est aussi bon qu'un produit conventionnel, on va pouvoir aller rejoindre une clientèle beaucoup plus large.
Et je me suis même laissé dire qu'il y a des gens qui ont goûté de vos gâteaux sur des vols transatlantiques.
Exactement. Donc, depuis 2 ans, pour Noël, chez Qatar Airways et également British Airways, au départ de Montréal et de Toronto, on retrouve les bûches de Noël de Bonbon Collection.
Une députée maintenant.
Carole Mallette, députée d'Huntingdon.
C'est important pour vous là, de venir discuter avec les gens du secteur de la transformation alimentaire?
C'est très important parce que c'est les gens qui œuvrent, qui ont les vrais enjeux, mais surtout les solutions. Fait que si on n'est pas là pour les écouter, ben, on n'aura pas les vrais enjeux, puis on n'aura pas les solutions. Fait que c'est très important.
Il y a toutes sortes de préoccupations, là, économiques, main-d'œuvre, etc. Là. Il y a beaucoup de dossiers préoccupants.
Exactement, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas parler de transformateurs sans parler de production primaire. Hein. On va parler à nos agriculteurs. Fait que je pense qu'ils ont des enjeux, effectivement, qui sont importants. Puis je pense que la transformation, bien, porte aussi ces enjeux-là. Ils ont ces soucis-là parce que ça en va de notre sécurité alimentaire.
Et vous, vous êtes de la circonscription d'Huntingdon. Vous baignez dans le jardin du Québec, pourrait-on dire?
Bien oui, parce qu'on a une MRC même qui s'appelle les Jardins de Napierville. C'est 97 % agricole. Puis on a aussi le Haut-Saint-Laurent qui est aussi à 93 % agricole. Puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés d'agriculture. Puis on a aussi beaucoup de transformations. C'est d'une richesse et d'une beauté, ce comté-là, surtout des grands artisans. Puis on a aussi quelques municipalités là, du Haut-Richelieu et aussi de Beauharnois-Salaberry. Donc on est vraiment très gâtés en 28 municipalités, plus notre communauté autochtone d'Akwesasne.
Je pourrais dire maintenant un financier. Il préfère probablement qu'on dise qu'il accompagne les entreprises.
André Surprenant, de Financement Agricole Canada. Je suis vice-président financement corporatif et commercial.
Monsieur Surprenant, vous participez à cet événement réseautage ici à l'Assemblée nationale. Des gens du secteur de la transformation alimentaire qui ont eu l'occasion de discuter avec des politiciens, mais aussi de se revoir entre collègues. C'est toujours important ce genre de rencontre.
Assurément. Les membres de l'industrie ont tous une réalité différente, mais en même temps une réalité commune, en ce sens qu'on fait tous de l'agroalimentaire, on fait de la cuisine à grande échelle, et il y a des défis qui sont les mêmes, qui peuvent être l'emploi, les relations avec les détaillants, par exemple. Alors, c'est très important de se rencontrer, les intervenants comme FAC et d'autres joueurs de l'industrie qui sont là pour travailler avec les transformateurs, et d'avoir un contact avec le politique pour expliquer les réalités qu'on vit et également partager ça avec le monde politique.
Il y a comme un stress actuellement dans l'économie générale. Le secteur agroalimentaire se tire relativement bien d'affaires, mais il faut toujours être vigilant et attentif.
Définitivement. On est encore sous l'effet post-COVID après ces années-là. Le secteur a connu une forte inflation, des taux d'intérêt élevés pour ralentir cette inflation-là. Ça met de la pression sur l'industrie, ça met de la pression sur le consommateur également. Donc, on vit les aléas de tous ces changements-là. On s'en va vers un monde qui va être un petit peu différent, qui est toujours en évolution. Et encore une fois, c'est important de s'en parler entre nous, de trouver des solutions et d'aller chercher l'appui du gouvernement et de la fonction publique pour nous appuyer dans ces défis-là propres à l'industrie.
À propos d'une viande qui a gagné en notoriété grâce à une campagne bien orchestrée récemment. Je parle du canard du Québec.
Sébastien Lesage, le canard goulu.
Chez Canard Goulu, comment ça va?
Ça va bien. On travaille très fort. La business roule, mais les défis sont présents. Fait que, on n'est pas découragé, mais on est actif.
Les coûts sont à la hausse, bien sûr. Il y a toujours menace de grippe aviaire, donc il faut être très vigilant là.
Effectivement, là, juste dernièrement, là, les coûts de l'essence pour nos livraisons, c'est une préoccupation certaine. La grippe aviaire, le printemps avec les oiseaux migrateurs, c'est une question qu'il faut rester extrêmement vigilant au niveau de la biosécurité. Puis les intrants en général, la main-d'œuvre, il y a des pressions constantes. On garde le cap, mais avec des défis constants.
Et ce soir, soirée réseautage à l'Assemblée nationale. C'est toujours important de maintenir les contacts entre gens d'affaires dans le domaine agroalimentaire et ici, bien, avec quelques politiciens en plus.
C'est un intérêt certain de pouvoir parler à nos élus puis faire valoir nos besoins, nos défis, nos ambitions et puis d'avoir une oreille attentive. C'est une soirée exceptionnelle pour ça.
Et le fruit d'une culture qui se développe et qui trouvera bientôt place dans notre commerce agroalimentaire, la truffe du Québec.
Sophie Deveau, Maude Lemire-Comeau, présidente de Truffe Québec et aussi copropriétaire de la compagnie Les Truffettes.
Et vous, vous êtes dans les truffes aussi, là?
Oui, jusqu'à la tête, jusqu'en haut de la tête.
Truffe Québec, comment ça va?
Truffe Québec, ça va très bien. On est rendu à 75 producteurs cette année, avec 75 000 arbres de plantés, plus de 60 hectares de culture de truffes. Donc, on prévoit que dans 3 ans, de la truffe fraîche, il va y en avoir dans les marchés québécois puis sur les tables des restaurants québécois.
Mais déjà, vous avez quelques produits, une huile, entre autres, une huile de truffe, je ne me trompe pas, là. Et c'est de l'huile de truffe québécoise.
Exactement. Comme on avait une très grande demande pour nos fameuses truffes du Québec, dont la fameuse truffe des Appalaches, on n'a pas assez de truffes pour suffire à la demande, mais on était vraiment impatientes de faire découvrir ce goût-là aux Québécois. Donc, on a travaillé très, très fort pour développer une huile qui est à la saveur de truffe des Appalaches, une huile végétale, biologique, du Québec, pressée à froid, vraiment une belle qualité d'huile.
Comment vous la produisez?
Dans tous les produits transformés de la truffe, ce qui donne le goût, l'odeur, l'arôme de la truffe, c'est pas le produit frais, mais c'est bien un arôme. Donc, on a développé un arôme 100% végétal qui part de distillats de plantes et de légumes pour recréer l'odeur de la truffe. Parce qu'une truffe transformée, qu'elle soit déshydratée, lyophilisée, séchée, elle perd son microbiome, puis elle ne sent plus. On a la matière, mais on doit lui ajouter de l'arôme pour la transformation. Donc, pour répondre à votre question, Lionel, l'huile à saveur de truffe des Appalaches, c'est de l'huile de tournesol biologique pressée à froid avec un arôme 100% naturel de truffe des Appalaches. À la base, on a utilisé la truffe fraîche des Appalaches pour développer cet arôme-là. Mais dans l'huile, il n'y a pas de truffe. C'est ça qu'il faut savoir.
Ici Lionel Levac. Au risque de sembler énoncer un simple cliché, je vous dirais qu'un cocktail est probablement le type de rencontre le plus intéressant pour le réseautage. Et l'événement annuel du Conseil de la transformation alimentaire du Québec à l'Assemblée nationale permet à la fois le réseautage d'affaires et l'exposé auprès des parlementaires de ce que sont les produits des entreprises et les défis quotidiens du secteur. Au revoir.
Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.